Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le 21 mars 2024, il y a 756 jours que la Russie a envahi l'Ukraine.
Slava Ukraine.
Slava Ukraine. Героям слава.
Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
Dans cet épisode, on va parler du score stalinien de Vladimir Poutine à l'élection présidentielle en Russie, de ce que pourraient faire des troupes occidentales déployées en Ukraine et des Européens qui cherchent à passer en économie de guerre. Très tôt ce matin, 31 missiles russes sont entrés dans le ciel de Kiev, première attaque d'ampleur contre la capitale ukrainienne depuis le mois de février.
Salut Isabelle, il y a 5 heures du matin à Kiev, il y a une vague de missiles qui attaque notre ville. J'ai entendu une forte explosion tout à l'heure.
Vitali Kartamitchev, qui intervient régulièrement dans ce podcast.
C'est vraiment effrayant. Je ne sais pas s'il y a des victimes, mais c'est une vague très très forte. Il y a des missiles qui s'approchent encore.
Oui, salut Isabelle, c'est Olia de nouveau. En fait, l'attaque a été vraiment grave. Il y avait des missiles de croisière, il y avait aussi des missiles balistiques, des Kinjal. Et c'était juste à côté, c'était dans notre quartier aussi, et il y a des dégâts dans notre quartier.
Tous interceptés par la défense antiaérienne, les missiles ont explosé en vol, mais en retombant, leurs débris ont fait une vingtaine de blessés. Moscou avait juré de se venger des attaques de drones ukrainiens qui se multiplient sur le sol russe depuis plusieurs semaines.
Voilà, donc on n'a pas bien dormi, parce que d'habitude, s'il y a une attaque, on dort dans un couloir de notre appartement. Mais la vie continue, là je vais chez le dentiste, voilà. Et j'espère que la nuit prochaine, je vais dormir. Allez, bonne journée. J'espère que notre journée sera calme, et la vôtre aussi. Et on se tient au courant. Salut.
Здравствуй, Россия! Здравствуй, великая страна!
Moscou, lundi 18 mars, la place rouge est transformée en scène de concert avec écran géant. Deux animateurs s'époumonnent devant la foule. Il y a là des supporters de Vladimir Poutine, mais aussi des fonctionnaires venus parce que leur chef ne leur a pas laissé le choix. C'est ainsi que le régime célèbre les 10 ans de l'annexion de la Crimée et la réélection la veille de Vladimir Poutine. 87% des voix.
Nous sommes venus ici parce que 10 ans de retour de la Crimée, c'est magnifique, c'est important pour la Russie, ce retour de l'unité de notre État. Nous voulons vraiment entendre notre remarquable Vladimir Vladimirovitch. Bien sûr, nous avons voté pour lui et nous sommes heureux qu'il soit de nouveau notre président.
Président Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин.
Le remarquable Vladimir Vladimirovitch Poutine assure le service minimum. Il vient surtout, comme il l'a fait 24 heures plus tôt, vanter l'unité de la nouvelle Russie envers et contre tout.
Rien ni personne ne peut nous intimider. Rien ni personne ne peut supprimer notre volonté, notre conscience. Personne n'a jamais, je l'ai déjà dit, réussi quelque chose de semblable dans l'histoire. Ça n'a pas marché aujourd'hui et ça ne marchera pas demain.
Jamais. Son score est de plus de 99% en Tchétchénie, tenue d'une main de fer par la famille Kadyrov, 95% dans les territoires occupés ukrainiens, mais même à Moscou, traditionnellement plus contestatrice, le chef du Kremlin fait le plein de voix. Dans la région, il n'y a guère que les dictatures que sont l'Azerbaïdjan ou le Turkménistan, où les présidents obtiennent des scores supérieurs aux élections.
Sylvain Tronchet, correspondant de Radio France à Moscou.
Même la participation historique pour une présidentielle dans le pays reste difficilement explicable, mais le Kremlin voulait une victoire net au service de l'image qu'il revendique d'un pays mobilisé et soudé derrière son président.
Поздравляю с праздником! Да здравствует Россия!
Ce scrutin est sans aucun doute le plus frauduleux de l'histoire de la Russie. Le média indépendant Medusa estime que sur les 76 millions de bulletins en faveur de Vladimir Poutine, au moins 22 millions ont été falsifiés. Et un autre média d'opposition, Novaya Gazeta, en Europe, en recense 31 millions. Autrement dit, quasiment la moitié des voix officiellement accordées au président. Ça n'empêche pas la Chine, l'Iran et l'Inde de féliciter le chef du Kremlin, de même que les putschistes africains, Mali, Burkina, Niger et Tchad. Dans l'autre camp, Nathanaël Charbonnier, les mots sont extrêmement durs.
D'ailleurs, ce ne sont pas les chefs d'État qui réagissent, mais plutôt leur chancellerie. Les Anglais expliquent que la Russie, en faisant voter dans les territoires occupés de l'Est de l'Ukraine, démontre qu'elle ne souhaite pas la paix. Les Allemands dénoncent une élection sans choix. La Pologne parle d'une élection qui n'est pas légale. La France, enfin, qui prend acte du résultat attendu. Cela montre qu'en termes de crédibilité, personne n'est dupe des annonces de Moscou.
Partout dans le monde, les opposants à Vladimir Poutine se sont comptés pendant le vote en se présentant devant leur bureau. À midi pile, comme le leur avait demandé la veuve d'Alexei Navalny, Yulia, exilée à Berlin, est venue elle aussi inscrire le nom de son mari sur son bulletin de vote après 6 heures dans la file d'attente où l'a rencontré le correspondant de Radio France, Sébastien Baer.
Bien sûr, j'ai écrit le nom Navalny, car il n'est pas possible qu'un mois avant l'élection, le principal opposant à Poutine, déjà en prison, soit assassiné.
C'est un tueur, c'est un gangster, poursuit Yulia Navalnaya. Il ne peut y avoir aucune négociation avec M. Poutine. À Saint-Pétersbourg, une femme a pris un gros marqueur rouge pour écrire sur son bulletin de vote « Non à la guerre ». Elle a été condamnée à 8 jours de prison. Après l'attaque de ce jeudi matin sur Kiev, le président Zelensky appelle les Occidentaux à avoir la volonté politique d'aider son pays. Ça tombe bien, les dirigeants européens sont en sommet pour 2 jours. L'Ukraine est évidemment à leur menu. Nous faisons face à la plus importante menace contre notre sécurité depuis la Seconde Guerre mondiale, avertit Charles Michel, le président du Conseil. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Correspondante de Radio France à Bruxelles. Comment continuer à soutenir Kiev? Comment passer eux-mêmes en économie de guerre alors que beaucoup d'États sont déjà très endettés? En fait, c'est ce que vont étudier les 27.
Alors, plusieurs pistes sont sur la table des dirigeants. La Commission propose d'abord d'utiliser les intérêts des avoirs russes gelés en Europe, jusqu'à 3 milliards d'euros par an, dont 90% serviraient aux achats d'armes dont Kiev a un besoin crucial pour continuer la guerre. Mais les Européens prennent aussi conscience qu'ils doivent se réarmer, eux aussi, collectivement, mutualiser leurs forces pour freiner la Russie en cas de défaite de l'Ukraine. Une autre option est donc de recourir aux bras armés financiers de l'UE, la Banque européenne d'investissement. Les industriels de la défense peinent à lever des fonds pour augmenter leurs lignes de production. La BEI pourrait servir d'effet de levier. Plus de la moitié des États européens ont déjà écrit à l'institution pour lui demander d'élargir sa politique de prêt plutôt orientée actuellement vers le climat.
Il y a aussi une autre piste qui serait d'emprunter de l'argent en commun.
C'est la moins consensuelle des trois, emprunter en effet collectivement 100 milliards d'euros. C'est une proposition de la dirigeante estonienne Kaja Kallas, dont le pays est en première ligne face à Moscou. Idée saluée par le commissaire français à la défense, Thierry Breton, et par le président Macron. Mais sans surprise, cette option ne réjouit pas les États dits frugaux, Pays-Bas, Allemagne, allergiques à l'endettement. Alors soyons créatifs pour les convaincre, dit-on à Paris, où l'on estime que l'Allemagne pourrait bien finir par monter à bord, comme à l'époque du Covid. Trouver de nouveaux financements ne se décidera pas en un seul sommet, mais le temps presse. Les premières décisions sont espérées avant l'été.
En attendant que la production européenne monte en cadence, la République tchèque a pris l'initiative en proposant à ses partenaires d'acheter maintenant, en dehors de l'Union, les obus dont Kiev a besoin plutôt que d'attendre de les fabriquer. Un premier lot de 300 000 munitions devrait être livré au plus tard en juin.
Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Qu'est-ce qui se joue en Ukraine ? Une guerre qui est existentielle pour notre Europe et pour la France. Il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner.
Alors que sur le terrain militaire, les troupes russes progressent, elles ont revendiqué ces derniers jours la prise de 2 villages à l'ouest d'Avdiivka, Emmanuel Macron persiste. Le président français a une nouvelle fois la semaine dernière évoqué la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine. Avant de partir lui-même pour Kiev, Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions géostratégiques, expliquait sur France Info à quoi pouvaient servir ces militaires.
L'idée d'avoir des troupes au sol, c'est pour 3 choses. D'abord, effectivement, c'est ce qui a été souvent présenté, aide à la formation, déminage, action, pour contrer les cyberattaques, tout ça c'est très bien. Deuxième hypothèse, c'est pour avoir des troupes qui sécurisent les zones qui sont aujourd'hui libérées de l'Ukraine. C'est-à-dire que si vous avez des troupes des pays de l'OTAN ou de certains d'entre eux au sol dans les zones libérées de l'Ukraine, la Russie n'osera pas les attaquer, parce que là, elle sait qu'il y a un risque. Et que deuxièmement, alors que vous voyez, on a encore vu ça à Odessa, des frappes meurtrières quasiment tous les jours contre des civils, contre des immeubles d'habitation, contre des hôpitaux, contre des écoles, contre des marchés, eh bien là aussi, si nous avons des troupes, ce sera une façon de dissuader la Russie d'attaquer. Et troisième hypothèse, et espérons effectivement qu'on n'en viendra pas là, ça voudra dire participer à des opérations de combat. Mais c'est pour éviter cette hypothèse-là que nous devons aujourd'hui aller jusqu'au bout de notre effort, parce que sinon nous serons conduits d'une manière ou d'une autre à entrer en guerre. Alors ce n'est pas souhaitable, encore une fois, ni de notre point de vue, ni du point de vue des Ukrainiens, et c'est pour ça que le président Zelensky, d'ailleurs, l'a refusé, parce que pour l'instant, il considère qu'il a la capacité de le faire tout seul, c'est aussi une question de fierté, et il comprend parfaitement aussi les opinions publiques occidentales. Mais si nous n'allons pas plus vite, plus loin, plus fort, nous y serons contraints.
Alors, ce que Nicolas Tenzer ne dit pas, là, c'est qu'en réalité, il y a très probablement déjà des militaires français sur le terrain. Bonjour Éric Bigala.
Bonjour Isabelle.
Tu es le spécialiste défense de la rédaction internationale de Radio France. Évidemment, leur présence n'est pas confirmée de manière officielle, mais c'est quasiment une certitude.
Oui, alors notamment pour tout ce qui concerne les systèmes les plus sophistiqués qu'on a livrés aux Ukrainiens. On pense aux missiles air-sol, hein, le Storm Shadow britannique ou le Scalp français.
Ça, c'est hyper sophistiqué.
Si, c'est sophistiqué, mais d'abord, il faut monter ces missiles sur des avions soviétiques. Alors, qui est-ce qui fait ça ? Alors, les Ukrainiens sont des as du bricolage, je veux bien, mais enfin bon, avant chaque tir, il faut paramétrer ces missiles. Et ça, le fabricant ou le possesseur de ces armes qui les a livrées à l'Ukraine n'a pas forcément envie que les Ukrainiens sachent paramétrer ça. Surtout que ces armes ne sont pas censées devoir être tirées sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc c'est pas idiot d'avoir un ingénieur de l'armement qui paramètre les missiles avant le décollage de l'avion, etc. Bon, on a plein d'exemples comme ça. On va livrer des bombes guidées et dirigées, on a ça les A2SM hein, aux Ukrainiens. 50 par mois, c'est pas rien. Hein. C'est ce qu'a dit le président de la République. Alors, là aussi, il va falloir bricoler un système pour fixer sous les avions ces bombes qui sont dirigeables. Ça se fait pas tout seul. Hein. Alors, il y a probablement des armuriers de l'air qui sont à pied d'œuvre autour des avions ukrainiens. Ça me paraît très logique. On parle aussi en défense sol-air de la batterie Mamba qui a été construite par la France et l'Italie, d'ailleurs, qui ont conjointement livré ce matériel aux Ukrainiens. Mais là aussi, c'est un système très sophistiqué, très cher. Hein. Le prix, ça vaut le prix d'un... Rien que le radar vaut le prix d'un Rafale, me disait un opérateur de ce système Mamba. Ensuite, on a ce qu'on appelle des effecteurs, c'est-à-dire des missiles qui vont aller descendre tout ce qui peut voler. Ça va du drone aux missiles à longue portée russes, en passant par les avions, les hélicoptères, etc. En fait, le système est capable de mettre pratiquement sous bulle de protection une ville, une petite ville. Et ça, on n'apprend pas à se servir de ce système en quelques semaines. C'est pas vrai, on va pas me faire croire ça. Et comme ce système n'est utilisé que par les Français et les Italiens, je parierait assez volontiers qu'il y a des opérateurs français ou italiens qui sont des militaires qui font en sorte que ce système fonctionne. Alors effectivement, quand on parle de troupes au sol, là on s'imagine aller monter à l'assaut, là on en est pas là, mais c'est pas forcément impossible qu'on y arrive. Je donne un exemple tout bête, la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, qui s'étend d'est en ouest, elle est sécurisée actuellement par des Ukrainiens. Mais il y a pas mal d'Européens, notamment les Polonais, me suis-je laissé dire, qui seraient tout à fait d'accord pour eux-mêmes sécuriser cette frontière ukraino-biélorusse, qui n'est pas un front, mais qui pourrait bien le devenir ou le redevenir. Et là, on ne va pas me dire, on ne va pas mettre des gardes-barrières. Donc là aussi, on peut mettre des troupes au sol un peu pour dissuader et sécuriser.
Pour terminer cet épisode, on va retrouver Olia Chourova qui nous racontait au début du podcast sa nuit de bombardement à Kiev, Kiev en ukrainien, car Olia jongle toujours entre les deux langues.
En fait, aujourd'hui on est le 20 mars et c'est la journée de la langue française, voilà. C'est aussi la fête de la francophonie qui est célébrée dans le monde entier et en Ukraine aussi. Avant la guerre à grande échelle, il y avait toujours des projections de films en version originale, il y avait des shows de lumière, il y avait des concerts, etc., en français. Mais depuis 2 ans, il y a pas beaucoup de choses, enfin, il n'y a rien de spécial qui se passe pour la semaine de la francophonie. Donc maintenant, c'est moi qui m'en occupe, comme j'ai une école de français qui s'appelle Musique de langue. Nous avons beaucoup d'ateliers de conversation, par exemple. Mais cette semaine, notamment, on discute sur la langue française, sur ses bizarreries, sur ses clichés. Aussi, d'ailleurs, nous servons des petits croissants et des pains au chocolat, ou des chocolatines, si vous voulez, à tous ceux qui viennent pratiquer le français avec nous. Et aussi, aujourd'hui, comme c'est la fête de la langue française, j'ai organisé une dictée en français, en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en direct, sur la page Instagram de mon école, j'ai lu un texte que j'écris moi-même avec des faits intéressants, un peu de chiffres, un peu de statistiques, un peu d'histoire, des raisons aussi pourquoi nous, les Ukrainiens, nous apprenons le français.
Bon, alors, on va commencer. Vous avez vos feuilles, vous avez vos stylos. Ouais.
Enfin, il y avait pas mal de gens qui l'ont écrit en direct. Ensuite, ils ont partagé leurs résultats dans des stories Instagram.
Le français est la 5e langue mondiale après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe.
Voilà, donc on s'est bien amusé. On a fait quelque chose d'utile pour notre niveau de français. Voilà, il pleut aujourd'hui, mais enfin, c'est un vrai temps printanier, parce qu'il pleut dans la journée, puis il fait très froid dans la nuit, le lendemain c'est le soleil, ça change tout le temps, un temps toujours inattendu. Mais ça c'est cool, j'attends le printemps, j'ai mon anniversaire au mois de mai, donc voilà, j'aime bien cette saison. Bon, ce sont plus ou moins toutes mes nouvelles, et puis on s'écrit plus tard. Et bisous à la France pour la fête de la francophonie.
Як працює матрак Києва, як працює метро, як виїхати з Києва, як правильно сповідатися, як правильно сповідатися, як правильно сповідатися, як намалювати кота, як намалювати кота, як отримати допомогу, як отримати дозвіл на зброю, як працює метро в Києві, як правильно сповідатися, як правильно сповідатися, як виїхати з Києва, як намалювати кота, як намалювати кота.
Olia a voulu vous faire écouter cette chanson de Stas Korolyov avec lequel elle mène plusieurs projets musicaux. Le texte s'inspire des principales requêtes ukrainiennes sur Google en 2022, l'année de l'invasion russe, des demandes anodines, comment dessiner un chat et beaucoup de questions comme celle-ci, quand la guerre se terminera-t-elle ? « guerre en Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été fabriqué grâce à Olia Chourova, Vitaly Kartamitchev, Sylvain Tronchet, Sébastien Baer, Angélique Boin et Éric Biegala. On retrouvera notre reporter Camille Magnard la semaine prochaine. Mise en onde Anthony Thomasson, production Isabelle Labéry. À jeudi.
C'était Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.